Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue du grain à moudre d'été. Ce soir, embryon, tout ce qui est possible est-il souhaitable ? C'est l'un des textes les plus sensibles du quinquennat, un texte attendu par certains, redouté par d'autres. Le projet de loi de bioéthique a été présenté ce matin au Conseil des ministres, quelques jours seulement après avoir été validé pour sa plus grande partie par le Conseil d'État. Une mesure concentre l'attention, la légalisation de la procréation médicalement assistée, la PMA, pour les couples de femmes et pour les femmes seules, et avec elle des mesures sur la filiation et sur l'accès à l'identité des donneurs. Mais il y a bien d'autres changements dans ce document d'une quarantaine de pages que les parlementaires examineront en septembre. Il y a notamment, et c'est aussi très important, l'assouplissement des conditions de recherche sur les cellules souches. Un sujet qui a d'ailleurs beaucoup évolué en quelques années. Recherche interdite en 1994 lors des premières lois de bioéthique. En 2013, 19 ans plus tard, la voilà autorisée. Un changement radical et rapide qui montre que les pratiques évoluent vite au rythme des avancées scientifiques. Un changement que la loi tente de réguler et qui pose aussi des questions éthiques de plus en plus grave, d'où cette interrogation. Tout ce qui est possible dans la recherche sur les embryons est-il souhaitable ? Pour en parler, trois invités. Dominique Folscheid, en direct de Quimper. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur émérite de philosophie morale et politique à l'université Paris-Est Marne-la-Vallée. Vous êtes aussi co-directeur du département de recherche éthique biomédicale au collège des Bernardins à Paris. Parmi les nombreux livres que vous avez écrits, votre dernier, Made in Labo, de la procréation artificielle au transhumanisme, un ouvrage publié par les éditions du Cerf. Xavier Bioy, bonsoir. Xavier Bioy, avec nous, est-ce que vous êtes là ? Professeur de droit public à l'université Toulouse 1 Capitole, vous êtes l'auteur de Biodroit, de la biopolitique au droit de la bioéthique. C'est aux éditions LGDJ. On me fait signe que vous êtes là. Bonsoir, monsieur Bioy.
Bonsoir.
Au téléphone, René Friedman, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes médecin spécialiste de la reproduction et du développement de l'assistance médicale à la procréation. Les auditeurs de France Culture vous connaissent bien, vous êtes l'un des producteurs de l'émission Matière à penser. Votre dernier livre, Intimité en danger, écrit avec Muriel Flitreve, est publié aux Presses universitaires de France. Pour commencer cette émission, jetons un œil donc au projet de loi dont il a été difficile de se procurer une copie aujourd'hui. Le texte assouplit les dispositions concernant les recherches sur les cellules souches embryonnaires, recherches qui pourront désormais se contenter d'une déclaration préalable, plus question d'autorisation délivrée par l'Agence de la biomédecine. Est-ce que, Xavier Bioy, c'est un changement important ?
Oui, certainement, c'est un changement important qui était demandé par les scientifiques, parce que jusqu'à présent, il fallait un régime d'autorisation assez exigeant, assez sévère, puisque l'on traitait ces cellules souches embryonnaires comme l'embryon lui-même, comme s'il s'agissait à chaque fois de détruire un embryon pour pouvoir faire des recherches sur les cellules. Or, les scientifiques ont estimé, comme c'est le cas dans beaucoup de pays européens, que l'on devait traiter différemment les cellules qui ont déjà été extraites de l'embryon et qui peuvent donc être cultivées et sur lesquelles on peut reproduire des expérimentations. Et donc, on aura un régime de déclaration qui évite une des conditions principales, qui était la condition de subsidiarité. On n'aura plus besoin de prouver qu'on peut faire des recherches équivalentes sur d'autres cellules que ces cellules embryonnaires. Donc évidemment, c'est une libéralisation importante.
Est-ce que c'est bon pour la recherche, cet assouplissement, René Friedman ? Est-ce que cela va assez loin pour vous ?
Oui, non, c'est incontestablement un pas en avant. Il faut bien voir, alors, peut-être pour nos auditeurs, distinguer deux choses. Il y a la recherche cognitive et, je dirais, éventuellement appliquée plus tard. Sur l'embryon. Et puis, il y a une recherche clinique qui est celle de pouvoir améliorer les pratiques de fécondation in vitro. Jusqu'à présent, les choses avaient été souvent mêlées, ce qui avait bloqué les uns et les autres. Donc là, il est clair, vous venez de parler d'une recherche scientifique sur les cellules souches en sachant que il y a plusieurs types de cellules souches, bien entendu, et deuxièmement, qu'il y a déjà, dans le monde, une dizaine d'études qui sont menées sur le plan médical pour guérir, pour tenter de guérir, il faut attendre un peu pour avoir les résultats, certaines maladies qui pourraient bénéficier du remplacement des cellules malades par des cellules souches ainsi obtenues.
Dominique Folscheid.
Oui, alors, je pense qu'il faut élargir un petit peu cette affaire, parce que en amont, il faut de toute façon des embryons pour pouvoir en extraire ces fameuses cellules qui deviennent ensuite des objets de laboratoire. Je pense que le modèle ici, c'est en fait la Grande-Bretagne qui, depuis très très longtemps, vit sur l'idée qu'avant le 14e jour, on a un pré-embryon qui n'est pas encore un embryon et qui est en fait un ensemble de tissus, de cellules, de tout ce qu'on voudra. Et il est curieux de voir que pratiquement, dans les faits, la plupart des biologistes qui travaillent sur ces questions tendent vers cette option, qui du point de vue éthique est quand même quelque peu une tartufferie, puisque au départ il faut des embryons, et il est d'ailleurs prévu dans la loi que il n'est pas sûr du tout, enfin je ne sais pas ce que les députés décideront, que les intéressés qui fourniront les embryons soient véritablement consultés pour donner leur avis. Mais qu'ils donnent leur avis favorable ou pas, de toute façon, il faut au départ une matière première. Donc moi, à mon sens, c'est pas seulement une affaire de science, c'est une affaire d'ambition de prendre progressivement le pouvoir sur la vie dans sa partie la plus élémentaire. C'est de la biologie, c'est aussi de la génétique, et je pense qu'il va falloir, au cours de l'émission, donner un sens beaucoup plus large, prendre pas mal de hauteur pour comprendre les enjeux. Sinon, d'ailleurs, notre auditoire, notre public, risque de s'ennuyer et de croire qu'on va se perdre dans des spéculations de généticiens et autres biologistes.
Bon, écoutez, voilà l'un des axes tracés de cette émission. J'espère que nous serons à la hauteur. D'où viennent ces cellules souches? Parce que là aussi, c'est une question. Vous venez d'y répondre en partie, Dominique Folchat. Je me tourne vers vous, René Friedman. D'où viennent les cellules souches sur lesquelles les chercheurs travaillent?
Alors, pour reprendre un peu ce que vient de dire notre intervenant, je voudrais quand même dire qu'effectivement, les embryons ne sont là que parce qu'à un moment donné, il y a eu une acceptation d'un homme et d'une femme pour pratiquer une fécondation in vitro et qu'il s'agit d'embryons surnuméraires. Voilà où on en est aujourd'hui, c'est-à-dire des embryons qui, de toute façon, n'ont aucune destinée. Donc, pour prendre de la hauteur, comme c'est suggéré, je dirais effectivement que jusqu'à présent, depuis 40 ans, donc ça fait quand même 40 ans que nous avons, je dirais, cette pratique, je crois qu'en France, en tous les cas, il n'y a jamais eu l'embryon n'a jamais été traité d'une certaine façon en dehors de la volonté des géniteurs, de ceux qui les ont fournis, de savoir s'ils acceptaient que les embryons qui n'étaient pas transférés soient maintenus, soient destinés à la recherche, soient détruits purement et simplement. Donc, je dirais, le respect premier, et qui me semble pas devoir être mis en doute, en tous les cas, je serai le premier à être vigilant sur ce domaine, c'est que l'homme et la femme qui sont à l'origine des embryons, on verra ensuite qu'il y a d'autres techniques qui peuvent être faites, sans passer par la fécondation in vitro. Mais là, je parle de la plus courante.
Allez-y.
Pour terminer. Donc, elle ne peut avoir lieu qu'avec le blanc-seing et la volonté exprimée, signée, renouvelée tous les ans du couple. Donc ça, c'est vraiment, à présent, il n'est pas question d'utiliser du matériel humain sans le demander aujourd'hui. C'est même sans parler d'embryon, même actuellement des cellules sanguines ou des prélèvements quelconques sont toujours, sous le sceau de l'acceptation et sur la volonté exprimée de celui dont ça provient.
Deux questions encore, René Friedman, rapide pour continuer à donner des clés de compréhension à nos auditeurs. Vous parlez donc de ces cellules surnuméraires qui sont originaires de fécondation in vitro.
Des embryons surnuméraires,
qui viennent de fécondation in vitro. Ce sont des embryons qui viennent de France et qui peuvent venir aussi de l'étranger.
Alors actuellement, il y a une réglementation très stricte sur le voyage des cellules et des embryons, des gamètes et des embryons, qui sont quasiment... alors eux, ils sont vraiment soumis à autorisation, et il n'est pas normalement possible d'importer ce matériel aussi précieux. Encore que, à l'époque d'Internet, évidemment, les choses peuvent être détournées.
Et est-ce qu'on a une idée, René Friedman, du nombre d'embryons consacrés à la recherche en France, de ces embryons surnuméraires?
Alors, vous savez, le problème en France, c'est très particulier, parce que, comme vous le savez, il y a eu 4 lois de bioéthique, c'est la quatrième dont on discute, et à chaque fois, je dirais, on a prolongé, la dernière en particulier, on a prolongé la durée de congélation des embryons qui n'étaient pas destinés à un projet parental, ou qui n'étaient plus destinés, plus exactement, à un projet parental. Ce qui fait qu'on se retrouve dans les laboratoires avec des accumulations d'embryons. On est peut-être le pays qui a le plus d'embryons, parce que, comme on n'a pas mis une limite à cette garde embryonnaire, les choses se sont accumulées, parce qu'il n'y a pas un biologiste qui s'amuse à détruire des embryons s'il n'a pas l'accord absolu de ce que je disais tout à l'heure, de l'homme et de la femme qui en soit à l'origine. Voilà, donc on est dans une situation où il y a à peu près, dans une fécondation in vitro, il y a à peu près 20% des cas qui concernent des embryons surnuméraires. Après, ça dépend du projet parental, bien entendu. Mmh. Il y a des familles, heureusement, qui se créent, mais il y a aussi des couples qui ont un enfant, deux enfants, trois enfants, et qui ont encore des embryons dont ils vont se poser la question de savoir que faire.
Xavier Bioy, sur cette question de ces embryons surnuméraires.
Deux points peut-être pour compléter les deux interventions. Le premier point, c'est que on peut avoir une vision en philosophie, une vision essentialiste de l'embryon, c'est-à-dire de chercher son identité, sa complétude. Mais le droit ne réagit pas comme ça, il a une approche plutôt finaliste par les usages qui seront faits de l'embryon. Et donc clairement, le Code de la santé publique attribue des statuts à cet embryon in vitro assez distincts de l'embryon qui sera, lui, l'élément d'une grossesse. Et donc, on a une vision très pratique au regard de la recherche. Et alors, pour compléter la question de la conservation des embryons, c'est vrai que c'est une question complexe, et le projet de loi vient rappeler que quand l'embryon ne fait plus l'objet d'un projet parental, au bout de 5 ans de silence du couple, il sera automatiquement détruit, ce qui justifie par ailleurs, à minima, le fait qu'on le confie à la recherche. Et s'il est confié à la recherche par le couple, et qu'au bout de 5 ans, il n'a pas été utilisé dans le cadre de la recherche, il devra effectivement être détruit. Et puis enfin, c'est le lien avec l'aspect assistance médicale à la procréation. Il est prévu que les stocks d'embryons seront détruits à terme, un an après l'entrée en vigueur de la loi, parce qu'ils n'auront pas nécessairement fait l'objet d'un don avec la possibilité de recourir à l'identification du donneur. Mmh. Et donc, ces stocks dont parle René Friedman seront amenés sans doute à être bien réduits, aussi bien des gamètes que des embryons.
René Friedman ?
Oui, peut-être une question de fond, effectivement, qui est qu'est-ce que c'est qu'un embryon ? Et c'est quand même un embryon humain, je parle. C'est quand même ce qui nous habite depuis des années, des questions. Je rappelle simplement que le Comité national d'éthique avait, entre 86 et 90, défini l'embryon comme une personne potentielle. C'est-à-dire que c'est une potentialité de personne, d'ailleurs, plus exactement. Et donc, ce qui veut dire qu'il y a effectivement un respect à donner à l'embryon dans la mesure où il provient derrière d'un homme et d'une femme, en tous les cas, jusqu'à aujourd'hui, on verra demain que ça peut être peut-être envisagé autrement, mais aujourd'hui, c'est donc l'homme et la femme qui sont derrière, dont la volonté doit être respectée, sauf si elle ne se manifeste pas, comme cela vient d'être dit, et cela viendra libérer ce stockage d'embryons qui sont en déshérence, on va dire. Ce qui peut se comprendre, parce que ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple, forcément, pour un couple, de savoir qu'il y a une potentialité de quelque chose quelque part. Et c'est pour ça d'ailleurs que d'autres techniques se sont développées, comme la congélation ovocytaire avant qu'il y ait la fécondation par le spermatozoïde, parce que là on est à un stade qui n'est pas justement cette potentialité de personne.
Avant d'entendre Dominique Folscheid sur cette question, encore un mot avec vous René Friedman sur la manière de créer des cellules souches. Il y a donc, et on en a parlé déjà dans cette émission, la fécondation in vitro. Est-ce qu'on peut aussi créer des cellules souches à partir de cellules du corps? Et je fais référence là à des recherches menées à l'Université hébraïque de Jérusalem qui ont conduit à créer des cellules souches à partir de cellules de peau. Est-ce que les résultats ont été réellement concluants et est-ce qu'il y a eu d'autres études menées ou d'autres recherches menées sur ce sujet-là ailleurs dans le monde?
Oui, ben, allez-y, peut-être, vous voulez intervenir. Ou sinon, je vous dirais simplement, oui, qu'effectivement, vous savez, en fait, c'est, techniquement, si on prend une cellule de la peau, et qu'on change, si vous voulez, le noyau pour remettre un noyau, je dirais, qui sera un noyau fécondé, 46 chromosomes, on risque d'avoir un développement embryonnaire. Pas tous les coups, mais on risque d'avoir un développement embryonnaire. Ce développement embryonnaire va produire les différentes étapes connues, c'est-à-dire la création de cellules souches, cellules à l'origine de toutes les gamètes, n'est-ce pas ? De toutes les gamètes d'une part, mais toutes les autres cellules, les cellules du cerveau, les cellules de la peau et tout ça. Donc, si c'est la voie au clonage, c'est-à-dire que si de cet embryon ainsi obtenu à partir d'une sans fécondation proprement dite, mais avec une cellule de la peau de quelqu'un, on peut obtenir donc des cellules souches. Simplement, il faut savoir que si on replaçait cet embryon, ou appelé cet artefact d'embryon, il pourrait y avoir un système de clonage et donc la naissance d'un être humain. Donc vous voyez, on est effectivement sur des zones qui sont très limites.
Mmh. La question posée là, Dominique Folscheid, à travers ce que vient de dire René Friedman, qui parlait de potentialité de personnes à propos de l'embryon, hein, selon les mots du Comité consultatif national d'éthique, est-ce qu'il s'agit donc d'une une potentialité de personne ou bien d'un objet de recherche scientifique ?
Alors, ni l'un ni l'autre, en général, parce que le problème doit, à mon sens, se poser différemment. Qu'on hésite sur l'identité, le statut de l'embryon, se comprend. À l'époque, la première époque, ça fait partie des premières décisions du CCNE,
le Comité consultatif,
national d'éthique, à l'époque de Jean Bernard, on a esquissé cette idée de personne potentielle, en confondant la potentialité au sens scientifique et le potentiel au sens philosophique, qui nous renvoie à Aristote, mais on ne va pas en faire un cours à cette heure,
on n'aura pas le temps.
Voilà. En revanche, ce qui est clair, quels que soient les efforts du droit pour essayer d'aménager une situation, comme l'a dit notre collègue, on traite l'embryon, et maintenant les composants de l'embryon, ou sa décomposition, ou ce qui résulte de sa décomposition, comme une chose. Ce qui a été démontré en droit par Bernard Hudelmann, qui est bien connu dans le milieu. L'embryon est une chose en pratique. Et, alors, René Friedman a évoqué cette notion de projet parental, qui effectivement, pour moi, anthropologiquement, philosophiquement et éthiquement, pose un problème majeur. Pourquoi ? Parce que le projet parental revient à attribuer à des adultes un pouvoir absolu, une toute-puissance, un droit de vie et de mort, un droit de libre disposition, qui fait que on peut supprimer l'embryon, on peut le donner à la recherche pour en faire un matériel d'expérimentation, on peut le laisser au frigo, et il y en a, d'après ce qu'on peut savoir, entre 175 000 et 180 000 qui seraient aujourd'hui, si j'ose dire, et le mot a été employé, en stock. Et donc, on se situe dans une situation que Heidegger, le philosophe, dans les années 50, avait déjà envisagé en disant l'idéal pour la science moderne, pour la technique moderne, c'est de faire de l'humain une matière première et de le traiter comme on le fait de la nature, c'est-à-dire comme un stock. Un stock disponible à partir duquel on pourra faire quantité de choses. C'est pour ça que lorsque j'en appelais à une sorte d'élévation, c'est pour dire quel est le sens de tout cela. Finalement, que cherche-t-on à travers tous ces éléments ? Et si j'observe ce qui a été le questionnaire de la consultation, avant que le CCNE en fasse un résumé, en comparant la loi bioéthique de 2011, il y a un certain nombre de choses qui sont extrêmement intéressantes. Puisqu'on s'aperçoit que cette histoire de le titre 1 sur la reproduction, développement embryonnaire, etc., envisage la thérapie, envisage de mini-organes, envisage des embryons 3D, en trois dimensions, et dans le projet de loi actuel, il est très clairement indiqué que par les cellules souches embryonnaires, et de préférence par les cellules de peau reprogrammées, qui ont donné lieu aujourd'hui, je le précise, à la naissance de souris au Japon, l'idée c'est qu'on va pouvoir se dispenser d'utiliser le sperme et les ovocytes des humains. C'est totalement explicite, bien que je n'ai pas lu les 40 pages, ne les ayant pas eues aujourd'hui, je ne suis pas digne de les avoir, bien entendu, il est clair qu'il y a un sens à tout cela. Ce sens, c'est finalement d'essayer de disposer d'un matériel bien plus accessible, bien plus manipulable que le sperme actuel qui fait l'objet de dons ou les ovocytes, et ça c'est encore plus compliqué, les femmes en ont peu, etc. Et comme en plus on veut que les ovocytes soient cryogénisés pour pouvoir retarder le moment de la maternité, on voit dans quelle galère on est en train de s'embarquer. Je pense qu'il y a une destination à tout cela, et si on ne lit pas le texte dans tout son ensemble, on ne comprendra pas pourquoi il y a ces débats.
Xavier Bioy.
Oui, ce que dit Dominique Folscheid a un écho tout à fait dans notre législation, dans la mesure où, comme je le disais, il n'y a pas de définition juridique de ce que c'est qu'un embryon. Les biologistes en ont une, voire plusieurs. En droit, on n'en a pas. Il a fallu attendre que la Cour de justice de l'Union européenne nous indique qu'un embryon humain, c'est tout ovocyte fécondé qui peut donner lieu au développement d'un être humain. Et c'est cette même cour qui a essayé de protéger, par des dimensions d'ordre public, l'idée de breveter des inventions qui seraient obtenues par la destruction de l'embryon. C'est-à-dire de considérer qu'au niveau de l'Europe, l'embryon a une certaine valeur dans l'absolu. Mais en droit français, il n'y a pas cette définition et le mot embryon n'apparaît que dans le code de la santé publique, donc dans le cadre des technologies, des techniques d'AMP et de recherche dont on est en train de parler. Ce qui fait qu'il y a un dédoublement de régime. Comme je le disais, on a d'un côté l'embryon in vitro qui est une chose humaine, certes, c'est la porte d'entrée de l'espèce humaine, du génome humain, mais il n'a aucune protection en lui-même, en tant qu'individu. Un embryon n'a aucune valeur, il peut être détruit dans le cadre d'une recherche, alors qu'il faut le comparer avec le statut de l'embryon in utero, celui qui fait l'objet d'un projet parental, celui qui est accueilli dans le cadre d'une grossesse, parce que là, le droit change de terminologie. Le régime, là, est celui de la loi Veil sur l'interruption volontaire de grossesse, et on y parle d'être humain. Donc on voit bien que même dans la terminologie, même dans la protection, on n'a pas un embryon, mais on en a bien deux, avec deux conceptions, l'une plutôt essentialiste, l'autre plutôt technicienne. Et donc on voit bien que, de ce point de vue-là, les recherches sont porteuses potentiellement de dérives. Mais bon, la loi actuelle, le projet de loi dont on parle, essaie de mettre en place un certain nombre de garde-fous, notamment en limitant à 14 jours. Le temps, la limite pendant laquelle on peut faire des recherches. Limite qui n'était pas posée jusqu'ici par la loi française. La pratique était plutôt de 7 jours dans les protocoles qui étaient approuvés par l'Agence de biomédecine. Mais on s'aligne ici sur une sorte de standard européen. Dans les pays où il y a des recherches, elles sont limitées à 14 jours, c'est-à-dire l'apparition d'une première ligne qui signifie plus tard le développement du système neurologique.
On va revenir sur les dérives. Allez-y, Dominique Folchheim.
C'est le ralliement au thème du pré-embryon de la Grande-Bretagne. Et on serait plus honnête de dire, bon, écoutez, avant la crête neurale, l'embryon n'est pas encore un embryon.
La crête neurale intervient
Le développement de la crête neurale vers le 14e jour.
14e jour. Quel moment ?
Bon, on peut faire des clones avant, donc ça veut dire qu'on a totalement les mains libres de 1 jour à 14. Et donc, on est dans le matériel. Mais il n'y a qu'à regarder ce qui se passe à l'étranger pour se rendre compte qu'à mon avis, la France est dans une situation quelque peu schizophrénique. Et elle est dans un monde lui-même schizophrénique parce que quand on entend les lycéens qui défilent au nom du slogan « pas de nature, pas d'avenir », on est en train de se demander qu'est-ce que nous fabriquons dans une technosphère qui est en train, pratiquement, de vouloir nous mener, on ne sait trop où, plus exactement, au transhumanisme. Et la France est effectivement coincée entre « nous sommes en retard, il faut se dépêcher, sinon on est concurrencé par les pays plus avancés qui, eux, pratiquement, ne fixent aucune norme », et en même temps, on cherche à fixer des normes, mais ça revient à planter un baobab dans un pot de fleurs. Et en même temps, on en arrose les racines, parce que dans les attendus de la loi, les motivations du fait qu'on veut développer la recherche sur les cellules souches reprogrammées, c'est, je le répète encore une fois, c'est pour obtenir des gamètes, c'est-à-dire pour se passer des hommes et des femmes. In fine, c'est ça l'objectif. Et c'est un mouvement mondial dans lequel la technoscience est liée. Écoutez, c'est explicite. Et qu'est-ce que vous voulez ? De toute façon, il y a le seul point qui va coincer, c'est il faudra toujours un utérus. Mais on s'y emploie, puisque nous avons appris il y a peu qu'une à Philadelphie, une université américaine, nous promet l'utérus artificiel pour dans 2 ans.
Voilà pour le point de vue de Dominique Folchheim. On vous a entendu réagir, René Friedman.
Oui, parce que, je veux dire, non, l'objectif des recherches, ce n'est pas, je dirais, ça peut être aussi de créer des gamètes parce que des hommes n'ont pas de spermatozoïdes, des femmes n'ont pas d'ovocytes et que ça pourrait effectivement répondre à leurs besoins et leurs désirs d'enfant. Mais franchement, je crois qu'aujourd'hui, la vraie source de réflexion, elle est d'origine médicale, c'est-à-dire qu'elle est de traiter et de guérir un certain nombre de maladies. Donc, je le disais, qu'il y a une dizaine d'études qui sont en cours à partir de cellules souches, en particulier pour les maladies oculaires, la DMLA, en particulier pour les maladies neurodégénératives. Donc, c'est un moteur extrêmement important que de répondre à des besoins médicaux. Maintenant, est-ce qu'il faut ne se soucier de rien parce que l'objectif est licite et il est même grandiose ? Non, je crois qu'effectivement, il faut se poser un certain nombre de questions et revenir encore une fois sur le fait qu'on ne peut pas disposer de gamètes et ni a fortiori d'embryons sans avoir le consentement. Le mot consentement qui n'a pas été utilisé jusqu'à présent sur le plan éthique est permanent et il est à notre gloire française en tous les cas d'essayer de montrer que depuis 40 ans il n'y a pas eu de dérive dans ce domaine. Donc elle a été très très contrôlée. Il faut maintenant ouvrir à la recherche parce qu'il y a d'autres projets médicaux. On part encore une fois des dépassements, ça c'est vrai. D'ailleurs, l'exemple qui s'est passé avec ce bébé génétiquement modifié, soi-disant, je les rencontre en état. Donc, il y a, tout, comme toujours, comme dans tout progrès qui se réalise, il y a des risques d'aller trop loin, et c'est le rôle de mettre une certaine ligne rouge et ne pas dépasser.
Dominique Folschein.
Oui. Alors là, je reconnais bien René Friedman, c'est j'ai rencontré à maintes reprises à des émissions de controverses. Nous nous chamaillons sur le fait qu'il parle de dérive grave, alors que moi, je parle de logique. Et effectivement, si la médecine ne retient de tout cela qu'une partie, ça je le veux bien, mais il vient lui-même de rappeler ce qui vient de se passer en Chine, où le professeur Jiang Kui a fait une provocation, c'est-à-dire sous couvert de lancer une nouvelle méthode de lutte contre l'infertilité de certaines femmes, ce qui effectivement peut être utilisé en AMP ou en PMA, il a modifié les sœurs jumelles, modifié le gène CCR5, qui est théoriquement la porte d'entrée du sida, et qui, de surcroît, permettrait à ces jeunes filles, si leur avenir va dans le sens prévu, hein, et si leur descendance éventuelle n'en est pas touchée, d'être rebelles également à la variole et au choléra. Bon. Donc, moi, je ne parle pas de dérive, je dis logique, parce que quand on regarde les grands projets qui se passent dans les pays anglo-saxons, en particulier aux États-Unis, en Australie, au Japon aussi, et bien entendu en Chine, où là, il n'y a pratiquement aucune norme, la médecine n'occupe une toute petite partie. Que la médecine puisse profiter d'un certain nombre de choses, c'est entendu, mais les laboratoires, inondés par l'argent qui vient de Google et tous les GAFAM, les laboratoires cherchent quantité d'autres choses. Une partie servira à la médecine, et c'est au fond l'inversion de ce qu'on connaît bien en médecine, à savoir que tout remède est à la fois un remède et un poison, hein, comme le dit le mot grec pharmakon. Donc on peut très bien retourner la formule et dire que on cherche des poisons partout, des poisons au point de vue anthropologique, mais que certains de ces poisons pourront servir de remède. Hein, c'est bien évident pour l'arsenic, c'est évident pour des tas d'autres produits. Donc moi, ce que j'appelle prendre de la hauteur, c'est se dire, on est dans un monde embarqué pour moitié, je fais de l'écologie la deuxième moitié si vous voulez, dans quelque chose qui est, il faut mettre fin à la nature. Ce qui est le programme des transhumanistes des années 90, lorsque Max Mohr, le fondateur du mouvement des extropiens, hein, qui sont pas des martiens, mais des gens de Californie, a écrit une lettre qui donne son congé à notre mère nature. Et les projets techniques dits NBIC, dont on pourra peut-être détailler parce que notre auditoire ne doit pas comprendre de quoi il s'agit avec ses acronymes.
Qu'est-ce que ça veut dire?
NBIC, ce qui veut dire nanotechnologie, biologie, informatique, sciences cognitives. Et la convergence de ces quatre grandes sciences est destinée à produire des humains nouveaux qui seront plus comme les nôtres. Voilà, c'est ça le programme. Et c'est pour ça que des millions de dollars, voire des milliards, sont déversés partout. Voilà pourquoi un type comme Craig Venter, qui dirige une entreprise nommée Humanity Longevity, se compare... Il dit de lui-même, we are playing God men. Nous sommes des hommes qui jouent à Dieu.
Xavier Bioy, est-ce que, en entendant ce que dit Dominique Folscheid, vous pensez aussi que les bornes ou mises en place par les textes de loi en France ne vont pas résister très longtemps à ce qui se passe ailleurs dans le monde?
Il m'est difficile de jouer les devins, mais il est vrai que nos deux autres intervenants.
On peut s'inspirer de ce qui s'est passé ces dernières années aussi. Je le rappelle, interdiction de la recherche sur les cellules souches en 1994, autorisation à peine 20 ans plus tard en 2013.
Bien sûr, les évolutions sociétales sont rapides. Mais si on s'arrête sur la loi actuelle et le projet de 2019, on a quand même une certaine étanchéité encore entre ce qui relève de la recherche et ce qui relève ensuite de la procréation. C'est-à-dire qu'on a une surveillance prévue par le texte de la création de gamètes ou même de boutons d'embryons à partir de cellules souches. L'agence de la biomédecine en est informée et le directeur de l'agence peut suspendre le projet de recherche s'il pense que les principes éthiques qui ont été fixés par ailleurs dans le texte sur l'embryon ne sont pas respectés. Alors ces principes, évidemment, c'est là où je bascule de l'autre côté, ils peuvent être critiqués parce qu'ils sont assez évanescents. On renvoie en réalité à la protection de la personne humaine, c'est-à-dire les premiers articles du Code civil qui sont faits pour protéger le corps humain adulte, je dirais pas forcément l'embryon. Donc la plupart de ces principes sont assez inapplicables à l'embryon. Et ce qu'on protège, encore une fois, c'est ce qui est derrière, c'est-à-dire l'espèce humaine, l'intégrité du génome, l'impossibilité de créer des embryons à des fins commerciales ou industrielles, et puis surtout l'impossibilité de donner naissance à un embryon qui a fait l'objet de recherche. C'est-à-dire qu'ici, on a pour l'instant une digue qui est assez infranchissable. Tout ce qui est de la recherche relève de la recherche, et tout ce qui ensuite relève de la procréation relève de la procréation. Donc on a quand même cette façon de se prémunir. Après, pour revenir dans le sens de Dominique Folchède, on a une précision dans ce projet de loi qui est intéressante, c'est l'interdiction des chimères. Ouais. Qui, en contrepartie, laisse augurer de l'autorisation de la transgénèse. Alors peut-être faut expliquer un petit peu, parce que les termes sont compliqués.
Les chimères, qu'est-ce que c'est ?
Alors, selon les intervenants, les définitions varient, mais il semble qu'on s'arrête aujourd'hui sur l'idée que la chimère, c'est une hybridation entre l'espèce humaine et l'espèce animale. Mm-hmm. Ça, c'est un tabou, un interdit absolu, mais qui est tenté, évidemment, par un certain nombre de chercheurs pour tester, justement, l'efficacité des cellules souches, c'est-à-dire leur caractère totipotent. Mm-hmm. Par contre, le fait qu'on n'interdise plus que les chimères, alors que dans la version de la loi antérieure, on interdisait aussi l'embryon transgénique, montre qu'on est assez tenté au stade de la recherche, encore une fois, pas de l'enfant à naître, on est assez tenté par l'idée des modifications génomiques au stade de l'embryon dans les 14 premiers jours dont je parlais tout à l'heure.
La transgénèse, on va continuer à en parler, juste le temps de vous rappeler que vous écoutez le Grain à Moudre d'été sur France Culture, que la question posée est la suivante, tout ce qui est possible dans la recherche sur les embryons est-il souhaitable ? Nous en parlons avec Xavier Bioy, juriste, René Friedman, médecin, et Dominique Folchheid, professeur de philosophie politique et morale. Xavier Bioy, à l'instant, vient d'aborder la question de la transgénèse, c'est-à-dire la modification du génome de cellules souches avec des gènes d'un autre embryon, une sorte d'hybridation humaine. On sait le faire déjà, cela, René Friedman, avec ce qu'on appelle des ciseaux génétiques. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement ?
Non, théoriquement, on pourrait faire beaucoup de choses, mais concrètement, on n'a pas fait encore grand-chose, parce que, comme toujours, on ne connaît pas les conséquences et qu'il faut toujours faire risque contre risque. Mmh. Risque d'innover quelque chose contre le risque de ce qu'on veut guérir. Par contre,
cette autorisation de la transgénèse dans le projet de loi, est-ce que cela, ça vous inquiète ou non ?
Non, ça m'inquiète pas, parce que je pense, si vous voulez, qu'il n'y a pas 36 solutions. Ou bien on avance en se mettant effectivement certains garde-fous, ou bien on n'avance pas du tout et on fait rien, et on commence pas à mettre le pied dans cette thématique. Je vois pas tellement d'autres solutions. Donc je pense qu'il faut avancer, mais qu'il faut rester extrêmement vigilant. Mais je voudrais vous prendre un exemple, celui de la thérapie génique. Il y a quand même quelques années, deux exemples d'ailleurs concrets. Celui de la thérapie génique, qui consistait pour des enfants qui, on appelait les enfants bulles, qui prenaient le moindre microbe et qui décédaient à la naissance parce qu'ils n'avaient pas de défense immunologique. On a commencé un traitement transgénique, on a essayé de modifier un gène. Ça a marché pour 14 d'entre eux. Malheureusement, certains ont développé une leucémie parce que le gène d'à côté avait été touché. Donc, bis repetita, les choses recommencent. Pour essayer de... Donc ça part toujours d'un élément, il y a de temps d'un bon élément, il y a de temps en temps des accidents, et puis ça redémarre parce qu'on comprend mieux, et maintenant qu'on a ce ciseau génétique, peut-être que les choses vont redémarrer, elles redémarrent d'ailleurs, dans ce domaine. Un deuxième exemple, c'est que vous savez qu'on peut connaître le sexe de l'embryon très tôt, pour toute grossesse naturellement conçue, je ne parle pas de la fécondation in vitro, mais à partir de 8-9 semaines, une prise de sang chez la mère nous donne le sexe de l'enfant si il était effectué. Or, depuis 20 ans qu'on connaît cette technique, il n'est pas pratiqué en France. Pourquoi ? Parce que il a été l'effet que homme ou femme, c'est pas une maladie. Donc on est resté là-dessus. C'est un combat, parce qu'évidemment, par rapport à l'Inde, par rapport à la Chine, par rapport à d'autres pays dans le monde qui sont émergents et même très présents aujourd'hui, il faut tenir compte avec leur histoire et leur culture, ou leur absence d'histoire, ou leur absence de culture. Mais ça veut dire
le risque derrière, juste René Friedman, le risque en fait de l'exemple que vous donnez de cette prise de sang, c'est que si on connaît le sexe de l'enfant à 8 ou 9 semaines, le risque c'est que à cause de ce sexe, les parents choisissent de mettre fin à la grossesse, est-ce là ?
Pourrait, absolument. Vous avez raison de mentionner ça. Oui, c'était ça. Donc tout ça pour dire que, comme toujours en médecine et après en science, et peut-être avec une conception plus large, je veux dire, il y a des pas en avant et il y a des pas de côté sur lesquels il ne faut pas aller, mais c'est toujours difficile, mais ça demande une grande vigilance. Mais d'un autre côté, quand même, moi je qui ai participé, comme d'ailleurs mes collaborateurs ici, combien ont participé à des discussions, qu'elles soient télévisées, qu'elles soient radiophoniques, qu'elles soient de réunions dans un village, où les gens finalement, sont extrêmement intéressés, et c'est normal puisque c'est leur devenir. Et moi, je mise là-dessus, je mise sur cette prise de conscience générale, sur le fait que ce soit encadré par une loi, et que, comme toujours, je dirais, c'est quand même une garantie d'une liberté. On autorise un certain nombre de choses sous contrôle.
Dominique Folschein.
Oui, si on raisonne en termes de médecine, je serais à peu près de l'avis de René Friedman. Mais la médecine n'est plus qu'une toute petite utilisatrice de quantité de choses qui relèvent de recherches d'un autre type. C'est la biologie, c'est la génétique, et plus largement, c'est la technique, une technique toute puissante qui a pour objectif finalement de mettre la main, et je pense que ça ne sera pas possible, sur la vie, quitte à la produire.
Cela dit, et Dominique Folschein, en France, les recherches sont très encadrées et elles ne sont autorisées que quand elles ont un but thérapeutique, donc pour la médecine.
Oui, mais ça, pardonnez-moi, je n'y crois pas un seul instant. Il y aura un régime à deux vitesses, il y aura une partie des gens qui vont respecter la loi en France, d'autres qui ne la respecteront pas, parce que c'est la
ailleurs
tradition.
Ailleurs dans le monde.
Ailleurs dans le monde et même en France. Et de toute façon, moi je crois ferme à la loi de Gabor, hein, qui dit tout ce qui est techniquement possible sera nécessairement réalisé un jour. Et quand vous avez de la demande, quand vous avez du désir humain par exemple, vous venez de l'évoquer, le désir de choix du sexe, puisqu'il est possible, techniquement, on ne voit pas comment on pourra l'empêcher. On l'interdira en France, c'est prévu d'ailleurs, mais on ne l'empêchera pas. Et c'est le public, là aussi je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit, le public, peut-être par écologisme humain, ou pour humanisme écologique, ce qui serait une meilleure formule, va finalement monter une sorte de protestation, comme cela s'est produit finalement assez récemment, sur la recherche de l'identité des donneurs de sperme. Et vous voyez, c'est un mouvement qui a été initié aux États-Unis, grâce à la génétique d'ailleurs, qui du coup devient réversible, hein. Elle a de mauvais usages pour éliminer les embryons, et elle en a de bons. Ce que je voulais dire pour terminer, parce que on n'a pas défini pour notre auditoire ce que voulait dire transhumanisme. Or, dans votre émission, vous envisagez la question de l'eugénisme. Et donc, un tout petit rappel historique en une minute, si vous permettez. Le transhumanisme, c'est le nouveau nom de l'eugénisme. Et on le sait parce que...
C'est-à-dire le choix des caractéristiques humaines.
Voilà. Par élimination, physique. Eugénisme négatif, par augmentation des capacités de l'être humain, eugénisme positif. L'eugénisme est né au XIXe siècle avec Francis Galton, le cousin de Darwin. Il a été promu comme une grande avancée par des gens comme Charles Richer, prix Nobel de médecine avant-guerre, ou bien comme Ernest Renan, que nous aimons tellement en France pour sa définition de la nation. Il a été ensuite concocté par des gens qui étaient le père Teilhard de Chardin, le frère d'Aldous Huxley, auteur du Meilleur des Mondes, qui s'appelle Julian Huxley, et qui est un grand scientifique de la théorie synthétique de l'évolution, et par un certain Jean Coutreau, un politique nicien dépressif et suicidaire, et ces personnes ont constitué des groupes juste avant la guerre, et ça s'est continué pendant la guerre, dans lesquels ils ont pensé que l'eugénisme avait une telle mauvaise réputation, ce qui s'est vérifié après l'affaire du nazisme, bien entendu, qu'il fallait en changer le mot. Et l'opération a été réalisée par Julian Huxley, le biologiste, en 1957, dans un livre, dans lequel il dit... l'eugénisme est une idée extrêmement intéressante, mais que la population n'accepte pas. Et pour le rendre convenable et acceptable, il faut le remplacer par un autre mot, qui sera transhumanisme. Et on en est là. Donc, on prend à tort les transhumanistes pour des délirances, qui sont pour une bonne part, hein, mais en réalité, c'est le nouveau nom, le nouvel habit, tout de lin blanc, de l'ancien eugénisme. Et c'est une des craintes que nous avons avec toutes ces tentatives concernant l'embryon expérimental, concernant les chimères, etc.
Vous voyez. Oui, René Friedman, il nous reste 2 minutes.
Oui, non, c'est parce que non, j'aime bien ce commentaire-là, mais quand même, l'eugénisme, c'est quand même par définition une politique qui s'applique à tout le monde et qui n'a pas d'échappatoire. C'est d'ailleurs tous les romans de science-fiction et les films de science-fiction qui font le lien avec le transhumanisme que vous évoquez, c'est quelque chose d'imposé. C'est-à-dire que, voilà, dans telle ou telle société, on n'a plus de relations sexuelles, dans telle société, on fabrique des enfants artificiellement, etc., etc. Ce que je veux dire, quand même, pour que, moi j'insiste, l'eugénisme, c'est quand même une définition qui est imposée, qui est, je dirais, obligatoire dans une société donnée. Or, nous en sommes très loin, parce que nous avons une position d'ouverture et la liberté des uns et des autres de faire ou de ne pas faire n'a jamais été aussi grande. Mmh. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut baisser la vigilance? Sûrement pas, et là je rejoins Dominique Holschheim, mais encore une fois, n'oublions pas ce caractère. Je ne vois pas imposer du transhumanisme à tout le monde. Il y aura peut-être une élite qui se croirait pouvoir sortir son épingle du jeu. C'est encore des romans de science-fiction en vue formidable.
Xavier Bioy.
Oui, si je peux me permettre de revenir sur cette question de l'eugénisme. D'une part, c'est une question qui est déjà interdite. L'eugénisme aujourd'hui est qualifié en droit de crime contre l'espèce humaine et il est quand même puni de 30 ans de réclusion criminelle et 7 500 000 euros d'amende. Quand il est effectivement, comme le dit M. Friedman, une politique publique ou collective, alors ça peut émaner aussi d'un groupe privé, hein, mais systématique, de sélection des personnes, et c'est même interdit au niveau international. Et la tentation de notre législateur aujourd'hui, on le voit avec le rapport Touraine, a été d'introduire quelques éléments qui pourraient laisser penser à du post-humanisme, comme le dit Dominique Folscheid, mais le projet ne les retire pas. J'en veux deux preuves.
Le rapport Touraine, c'est le rapport de Jean-Louis Touraine, hein, médecin et député à La République En Marche.
Qui souhaitait une extension du diagnostic préimplantatoire, c'est-à-dire le moment où on sélectionne des embryons dans une fécondation in vitro pour qu'ils ne soient pas porteurs d'une pathologie. Et là, on voulait l'étendre à d'autres techniques, je garde le mot pour moi, la recherche de haploïdes, qui était, semble-t-il, une porte ouverte à des recherches d'anomalies génétiques beaucoup plus larges qu'il ne l'est actuellement. Et en contrepartie, deuxième élément, on a dans la loi une légère extension du diagnostic prénatal. Donc dans le cadre de la grossesse, on introduit davantage d'informations génétiques, notamment de la parentèle. Mais ça aurait été deux occasions pour le législateur d'aller dans le sens de l'eugénisme, mais qui ne me semble pas être poussé à ce point-là.
Eh bien, merci à tous les trois. Merci d'avoir participé à cette émission. Question complexe que celle que nous posions, vous l'avez compris. Merci d'avoir posé les termes du débat. Je vous rappelle la question. Tout ce qui est possible dans la recherche sur l'embryon est-il souhaitable? Merci Dominique Folscheid, professeur émérite de philosophie morale et politique à l'Université Paris-Est. Merci à Alain Gauthier de France Bleu Brésisel pour la réalisation du duplex. Merci à vous Xavier Bioy, professeur de droit public à l'Université Toulouse 1 Capitole. Vous étiez en direct avec nous grâce à Skype. René Friedman, merci. Merci à vous, médecin spécialiste de la reproduction et du développement de l'assistance médicale à la procréation, producteur aussi de Matière à penser sur France Culture, Matière à penser que nous allons retrouver dans quelques secondes. Merci également à l'équipe du Grain à Moudre d'été, Marguerite Caton, Léa Capuano, Margot Leridon, Roxane Poulain et Valentin Berg. Réalisation ce soir, Thomas Jost, mise en onde, Laurie Vachon et Cindy Le Grumelec. Pour réécouter cette émission, l'application Radio France ou le site internet franceculture.fr. Restez avec nous.